Vous écoutez RTL.
Première radio de France. RTL.
Engagée dans les années 50, en pleine guerre froide, la conquête de l'espace a d'abord été l'affaire de grandes agences gouvernementales.
La curiosité est un vilain défaut.
Aujourd'hui, des entreprises privées investissent le secteur, ouvrant la voie au tourisme spatial. Passer ses vacances dans l'espace est aujourd'hui réservé à une élite.
Jusqu'à 22h.
7 privilégiés ont pu faire un séjour dans la Station Spatiale Internationale pour 15 à 30 millions d'euros chacun.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On vous emmène dans l'espace sur RTL comme chaque jeudi en partenariat avec la Cité de l'Espace de Toulouse. On décolle en direction des étoiles. Bonsoir Philippe Dronneau.
Bonsoir.
Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes médiateur scientifique à la Cité de l'Espace à Toulouse. Vous devenez un sociétaire de la curiosité. Vous êtes déjà venu nous parler des vols habités et puis de la conquête de la planète Mars. À l'occasion.
À découvrir en podcast sur RTL.
Oui, et à voir au cinéma aussi avec Matt Damon, Seul sur Mars, très bon film. Alors ce soir, on parle du tourisme spatial. On vient d'entendre le chiffre et la réponse, mais on va le rappeler, de vrais touristes spatiaux, c'est-à-dire qui passent plusieurs jours en orbite, il y en a eu très peu finalement.
Ah oui, oui, très peu, comme les astronautes, mais enfin ils sont sept. Et puis il y en a qui ont été deux fois, il y en a qui ont payé deux fois, ils ont aimé. Il y a aussi un fils d'un astronaute, voilà, ce sont des gens très riches, ouais. Multimillionnaires, voire milliardaires, et qui ont pu se payer un séjour dans l'espace, c'est-à-dire en orbite terrestre. Ils ouais. y restent pendant des jours, et ils profitent en fait en quelque sorte des sièges qu'on leur attribue.
Ouais, et qui ne sont pas pris par des astronautes, des scientifiques
un
à cette occasion-là.
Un petit strapontin de l'espace, on va dire.
Un petit strapontin, mais une vraie place quand même, parce que...
Vous imaginez 7. Alors 7 en 14 ans, c'est vraiment pas énorme. Le premier, il est très très riche, comme les autres. Il s'appelle Denis ou Dennis Tito. C'est qui ? C'est un Américain, c'est ça ?
Oui, c'est un Américain très riche qui a voulu, qui est le premier effectivement à ouvert et qui a lancé cette mode, en tout cas cette question. Est-ce qu'on va aller dans l'espace pour le tourisme ? Question qui avait été un peu abordée au moment de la navette spatiale américaine, parce que c'est quand on pensait faire 50 vols par an de la navette spatiale américaine, on a pensé que tout le monde irait dans l'espace. D'ailleurs, il y a eu des politiques, il y a eu des professeurs, etc. Mais là, il y avait un vrai siège et des sociétés ont voulu vendre. Et surtout, c'est les Russes qui ont quand même, à un moment donné, voulu faire rentrer des devises. Ils étaient en mauvaise santé. Et ils ont imposé, un peu en quelque sorte, aux Américains de libérer un siège pour pouvoir eux-mêmes faire des affaires.
Alors, on est au printemps 2001. Pourquoi ces Russes acceptent ce touriste de l'espace ?
Pour l'argent uniquement.
Juste pour l'argent ?
Oui,
il n'a pas un rôle.
Non, il n'a pas de rôle. Non, il n'a pas
c'est
de rôle.
C'est juste un
parce
passager.
Il s'est formé en 6 mois, en quelques mois. Mmh. Il est formé à la sécurité, etc. On y reviendra peut-être. Mais donc, c'est pas un rôle particulier. Il faut savoir que très régulièrement, on est obligé de changer le Soyouz qui est sur la Station spatiale internationale. On le change parce qu'au bout de 6 mois, il est obsolète.
Soyouz ?
Le Soyouz, c'est donc le taxi de l'espace. C'est le seul véhicule depuis, notamment que la navette spatiale n'y va plus. C'est le seul véhicule qui permet de faire la navette entre la Terre et la station. Donc on le change régulièrement tous les 6 mois. Donc il faut pour ça des équipages, et ils ont profité de ces rotations pour mettre des touristes spatiaux. Mmh. Et il faut savoir aussi que les accords avec les États-Unis ont été importants pour sauver l'industrie spatiale russe, mais ils font un peu ce qu'ils veulent. Il y a une partie russe de la station, et donc quand ils négocient, ils peuvent négocier un peu leurs affaires à eux.
Et donc ils l'imposent aux Américains, on l'a bien compris. Ce Dennis Tito, il veut retourner dans l'espace. Je crois qu'il a un projet qui s'appelle Inspiration Mars.
Que je sache, il ne veut pas retourner dans l'espace lui-même. Il veut envoyer un couple vers Mars. Et pour ça, il fait des projets sérieux, même si ils sont loin d'être aboutis. Mais il espère même utiliser le créneau de 2018 pour partir, ce que je ne crois pas possible du tout. Parce qu'il utilise des techniques pour le faire, et il l'a présenté très dernièrement. Il veut utiliser des techniques qui sont des techniques faites pour l'orbite terrestre normale. Il veut aller très très vite, et je ne pense pas qu'on puisse réaliser un tel vol très très vite. On en a parlé l'autre jour, c'est des vols qui valent beaucoup de milliards, qu'il faudra travailler, il y a des vraies contraintes. Non, c'est pas... Je pense qu'il veut aller très vite pour provoquer, pour tenter que la NASA l'aide, mais je pense que ce sera pas avant les années 20, voire les années
30. Pas prêt d'aller sur Mars.
Philippe Dronneau, ces touristes spatiaux, on a bien compris, ils n'ont pas de rôle dans l'espace avec les autres astronautes. En revanche, ils doivent se préparer comme les autres astronautes. On ne part pas n'importe comment dans l'espace plusieurs jours.
Alors, ils se préparent pour une partie simplement du vol qui consiste à surtout... Alors, on pourrait dire surtout ne touche pas. d'abord, on leur apprend.
Ça s'apprend, ça.
Ça s'apprend, hein, d'ailleurs. Il y a même des blagues cosmonautes qui disent qu'ils ont les mains bleues.
Qu'est-ce qui est dangereux? Il ne faut pas toucher quoi?
C'est ceux qui veulent un peu trop lever la main vers le panneau de contrôle et on leur tape sur la main et donc ils ont les mains toutes bleues parce que. Des coups de règle sur la. Ne touche pas. Donc d'accord. D'abord, ne pas toucher. Primum non nocere. Et puis deuxième temps, il faut assurer une sécurité active. Là, on leur apprend à bien s'en sortir dans toutes les circonstances. Et ils doivent évidemment assurer la sécurité de l'équipage, d'eux-mêmes et de l'équipage.
Est-ce qu'ils doivent être aussi, ces touristes spatiaux, dans une forme physique particulière?
Il faut être en très bonne...
Bilan de santé s'envoler
Évidemment, oui. Bilan de santé, ça, évidemment. Pas de problème apparent. Ouais. Donc, un très gros bilan de santé. Mais ceci dit, s'ils sont en bonne santé, il ne faut pas être très, très particulièrement... il faut être en forme, mais il n'y a rien de spécial. On peut dire simplement une chose, c'est que depuis qu'il n'y a pas la navette spatiale, maintenant, c'est le Soyouz qui a servi à ça. Et le Soyouz, si tout fonctionne bien, on fait un vol, je dirais, presque confortable. C'est très viril. Mais c'est quand même confortable. C'est sympa. N'importe qui, je dirais, peut le faire. Par contre, s'il y a
même
un problème de fusée... Mais
il y a une femme touriste spatiale d'ailleurs.
Il y a Anoushia Ansari.
C'est une iranienne.
C'est une américaine d'origine iranienne. Mmh. Simplement, en cas de mauvais fonctionnement de la fusée, le Soyouz peut revenir brutalement vers la. Enfin, il peut, disons, ne pas aller justement parallèle à la Terre. Il va revenir très vite vers l'atmosphère et faire un plat en quelque sorte. Si vous faites un plat dans la piscine, ça fait mal. Mmh. Eh bien, l'atmosphère, c'est pareil. Si vous êtes à 100, 200 km et que vous rentrez immédiatement, vous faites un plat. Et là, vous avez une accélération, enfin une décélération.
Donc là, il faut être en bonne forme physique pour accuser les légers, c'est ça?
On les prépare à un truc comme ça, qui est quand même très difficile. Il faut donc être en très bonne forme et l'avoir vécu un tout petit peu avant en cas de pépin.
À partir de quelle altitude au-dessus de la Terre on peut considérer qu'on est un astronaute?
Alors, certains disent, on dit que la limite des 100 km, c'est la limite au-delà de laquelle on peut apporter les aigles d'astronautes.
Ouais.
Bon. Moi, je trouve que c'est pas très clair parce que pour le public, nous, ce qu'on veut, c'est que le public comprenne quelque chose. Et pour comprendre, je pense qu'il faut savoir que être en orbite, ça n'a rien à voir avec se retrouver à 100 km. Donc, je sais pas si vous voulez qu'on y revienne après, mais en tout cas, si vous êtes à 100 km, vous n'êtes pas en orbite, vous n'êtes pas dans l'espace. Vous êtes simplement à une limite entre l'atmosphère et le vide spatial. Mmh. Et donc, cette limite-là a été dans les années 60, considérée comme une limite pour les astronautes, et on les a appelés des astronautes. Moi, je pense qu'il faudrait appeler les astronautes ceux qui tournent autour de la Terre, comme Gagarine, qui a fait une orbite, et ceux qui tournent autour de la Terre. Ils dépensent 100 fois plus d'énergie. Il faut 100 fois plus d'énergie pour avoir cette orbite terrestre. Donc, on n'est pas dans le même monde, en fait.
Astronaute, ça se mérite.
Astronaute, ça se mérite.
Allez,
ça se paye.
Ça se paye très cher, on l'a bien compris. On continue de voyager dans l'espace, et ça tombe bien, ce soir sur RTL, c'est gratuit.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité avec Philippe Dronneau, médiateur scientifique à la Cité de l'Espace de Toulouse. On vous raconte l'histoire du tourisme spatial. Et d'abord de ces milliardaires qui sont prêts à payer très très cher pour s'offrir une semaine dans la Station Spatiale Internationale. Il y a même un récidiviste. Philippe Dronneau, c'est un Américain. Comment Charles Simony a fait fortune d'abord?
Alors lui, c'est un spécialiste des logiciels. Et donc, il a, je crois, particulièrement travaillé sur Excel, sur les bases Microsoft Office. Et
ouais,
donc, il a dû toucher à chaque fois qu'on achetait, à chaque fois qu'on utilise. Il a touché beaucoup. Et donc, c'est un industriel du logiciel.
C'est-à-dire, il a d'abord fait fortune chez Microsoft. Ensuite, il a créé son entreprise.
Entreprise,
ce qui lui a permis de faire deux chèques. Puisque s'il va deux fois dans l'espace, il n'a pas un prix de gros, j'imagine.
Non, bien que ce soit des négociations dont on a beaucoup de mal à savoir les tenants et aboutissants. Ouais. On sait en gros combien ça vaut, et effectivement il semble qu'il ait payé deux fois à peu près le prix, peut-être un peu moins cher le deuxième, parce qu'on a dû lui dire qu'il ferait un tout petit peu moins d'entraînement,
ou
il a dû négocier surtout quelques réductions d'entraînement, mais c'est globalement des chiffres qui sont importants. On parle maintenant plutôt de 40 millions quand on veut négocier un vol, ils étaient à 20 millions, c'est pas très clair. Les Américains, semble-t-il, payent 75 millions pour utiliser le Soyouz pour rejoindre la station spatiale. Donc, c'est des prix à la tête du client, un petit peu.
D'accord. Guy Laliberté, c'est le fondateur du Cirque du Soleil. C'est le dernier touriste de l'espace. Il a payé 35 millions de dollars, je crois.
Voilà, on n'est pas loin.
Il y a une inflation.
Il y a une inflation, et puis ça continuera, je pense, à rester très cher, à moins que certaines sociétés privées, comme SpaceX, avec des véhicules à 6 places, puissent faire baisser un peu le prix du siège. On pourrait peut-être revenir à des 20 millions.
Est-ce qu'il y a un tarif par nuit passé à bord, comme à l'hôtel?
Je ne crois pas. Ceci dit, Space Adventures, qui est la société qui s'occupe de ces négociations, est assez secrète. Donc, je pense que évidemment la durée du vol peut compter. On a certainement des options en fonction du nombre de jours, et ça, c'est pas fixé d'avance. Ça peut être 8, ça peut être 9, ça peut être 10. Mm-hmm. Par contre, c'est un forfait, et le forfait compte. Ce qui compte surtout, c'est le vol, c'est la fusée qui va emporter, c'est le fait d'aller dans l'espace et d'en revenir, qui coûte très cher, plus que le séjour finalement dans l'espace, qui là coûte le prix de la nourriture et quelques vêtements.
Et quelle bonne nourriture.
Ah oui, c'est pas assez. Ils vont pas pour la gastronomie.
On en parlait la semaine dernière de ça. À propos d'hôtel, si Denis posait la question, vous nous disiez, je crois que c'était en hors antenne la semaine dernière, que c'était pas très compliqué de construire un hôtel sur la Lune, par exemple. On pourrait. Ce qui coûte très cher, c'est le trajet, c'est ça?
Alors, c'est vrai que d'avoir en quelque sorte un module d'habitation sur la Lune,
oui, je dis hôtel,
voire sur Mars.
Ouais.
Oui, un hôtel, une petite chambre, etc. C'est pas très compliqué, on sait le faire. Il y a déjà eu le LEM sur la Lune. Bon, et puis dans l'espace, en orbite terrestre, il y a même des gens qui ont déjà des plans, ont déjà fait des essais à des GCL réduites. Bon, un hôtel, c'est pas compliqué de recevoir des gens.
Donc pourrait y avoir l'équivalent d'une station spatiale privée, quoi, qui serait un hôtel en orbite autour de la Terre.
Comme certains des entrepreneurs veulent le faire.
D'accord.
Le problème, c'est qu'on n'a pas diminué. Enfin, la masse d'un homme ou d'une femme ne diminue pas. Ça fait 300 000 ans à peu près qu'on a à peu près la même configuration,
ouais.
Et on l'aura encore pendant un moment quand même. Et donc, pour aller dans l'espace, la physique veut qu'on dépense une certaine quantité d'énergie. Et ça, ça changera pas. Donc, on améliore la technique un petit peu. Mmh. Mais l'énergie nécessaire est ce dont... Donc, ça coûte extrêmement cher. Et c'est ça qui fait qu'il y a absolument, disons, des grosses difficultés pour que ça se démocratise.
Ouais. On va continuer d'en parler. Que cherchent ces touristes de l'espace? La meilleure réponse, c'est l'astronaute français Jean-François Clairvoy qui nous l'a donné ici même, il y a deux semaines. Il décrivait ce spectacle unique, la Terre vue du ciel.
C'est certainement l'émerveillement devant la Terre. Le champ de vue porte très très loin. On voit très rapidement les grandes chaînes de montagnes comme l'Himalaya, les déserts, les forêts, les atolls de Polynésie, les glaciers. Ça donne vie à la Terre de voir autant de variétés de couleurs, de voir les formations de nuages, de voir parfois la Terre en tant qu'être géologique vivant, les volcans, les ouragans, mais aussi de voir que les humains sont là. Les villes se manifestent par des grandes taches grises sur fond de couleurs minérales. La Terre apparaît comme très très belle, magnifique, mais aussi unique et isolée au milieu de cette immensité du cosmos. On ne peut pas s'empêcher de s'émouvoir vraiment très très fortement devant la beauté de cette planète qui nous abrite.
Jean-François Clairvoy, qui a eu la chance et qui a participé à 3 missions spatiales, donc 3 occasions de voir cette Terre d'en haut. Philippe Dronneau, spectacle, est-ce que vous le faites partager aux visiteurs de la cité de l'espace de Toulouse?
Ah oui, c'est un élément qu'on voulait depuis longtemps, depuis une dizaine d'années maintenant. On a un cinéma IMAX particulièrement performant en 3D et qui, d'ailleurs, Jean-François, là qu'on entendait, il est venu le voir 6 ou 8 fois à la cité, et à chaque fois il y a une...
Ça lui rappelle des souvenirs.
Il a une larme, oui, parce que c'est la réparation. Il a les larmes aux yeux parce qu'il a, c'est la réparation du télescope spatial Hubble qu'on voit. Il y a un décollage de navette qui est fantastique, et puis il y a cette réparation. Et il vit sa mission, et on le vit très bien. Donc c'est une forme sur Terre d'être capable de partager des petits moments de vols spatiaux comme ça sur Terre, dans des salles de spectacle de bon niveau.
C'est la motivation de ces touristes spatiaux de voir comme ça la Terre d'en haut, c'est ça qui les fait fantasmer?
C'est très certainement une vue fantastique et que beaucoup de gens voudraient voir, une majorité de la population voudrait voir. Je crois qu'il y a une attirance pour cette planète bleue et cette vision de la Terre qui est très très forte et qu'on peut comprendre tout à fait.
Il a envie aussi peut-être d'appartenir à une élite aussi. C'est comme pour frimer dans les dîners ou la machine à café.
Fermé,
c'est sympa. J'ai voyagé dans l'espace.
Alors après, il y a la notion effectivement d'élite, de faire quelque chose que personne n'a fait. Et effectivement, de ce point de vue-là, il y a le côté liberté. On flotte dans l'espace. Il y a l'impesanteur. Il y a aussi ce coup de pied aux fesses fantastique de la fusée. C'est-à-dire que bon, on est tous pareils. Non, il y a des gens qui sont.
L'adrénaline.
J'ai fait de la moto. Ouais. On sait ce que c'est que des super véhicules. On a envie de cette puissance. Et c'est vrai qu'il y a des avions puissants et que la fusée, rien de tel pour quelqu'un qui a vraiment envie de s'envoyer en l'air.
C'est quelle quantité de, c'est joli, quelle quantité de carburant un astronaute a-t-il sous les fesses au décollage? Imagine, il est dans la petite capsule Soyouz, là, au sommet de la fusée, c'est ça? Il y a quoi en dessous?
Alors, on pourrait voir, mais je pense à Apollo, quand les astronautes d'Apollo qui partaient vers la Lune, ils partaient avec quelques 2500 tonnes de carburant en dessous d'eux. 2500 tonnes, une vraie bombe.
Faut pas allumer une cigarette, oui.
Lorsque c'était la navette spatiale, on était à peu près à 2000 tonnes de carburant, d'oxygène liquide, etc. Tout ça, tout prêt à exploser. Une fusée Soyouz avec une fusée Soyouz, on est dans les 300 tonnes d'oxygène liquide et de kérosène. Faut pas que ça saute, hein.
Ouais. Ce goût du risque, est-ce que c'est quelque chose qui revient dans les récits des astronautes?
Non, je crois que les scientifiques,
des touristes de l'espace.
Enfin, pour les touristes de l'espace, il y a certains le goût du risque, d'autres pas. Mm-hmm. Et je pense d'ailleurs que c'est un des paradoxes du tourisme de l'espace, en tout cas de cette vogue, c'est que c'est pour le plaisir que les gens veulent y participer. Et là, c'est là que lorsque la sécurité est en cause, je pense que beaucoup renonceront. Ça, c'est évident. Pour certains, c'est des fanas du moteur. Ça, c'est eux, ils iront. Mais c'est très limité, ça, je pense. Ceux qui veulent vraiment voir la Terre de loin, participer à une mission extraordinaire, ceux-là voudront y aller avec plaisir et en sécurité. Et ça, c'est pas fait.
Parmi les sensations absolument inoubliables d'un vol dans l'espace, il y a aussi l'apesanteur. Mais pour ça, il n'y a pas forcément besoin de se retrouver en orbite.
Vous écoutez RTL.
Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On décolle ce soir sur RTL, bien installé dans la fusée de la curiosité. Notre pilote, c'est Philippe Dronneau de la Cité de l'Espace de Toulouse. Comme tous les jeudis, en partenariat avec RTL, vous nous faites découvrir un chapitre de la conquête spatiale. Ce soir, ce sont les touristes spatiaux qui nous intéressent. 6 hommes, une femme qui ont payé très cher pour passer une semaine en orbite. C'est ce que l'on expliquait tout à l'heure pour ceux qui nous rejoignent. Beaucoup d'autres espèrent vivre cette expérience un jour. Et parmi les sensations, il y a l'apesanteur ou impesanteur. Tiens, on peut dire les mots, les deux? Ça veut dire la même chose?
À la radio, il faut mieux que l'impesanteur existe, parce qu'en fait, impesanteur, c'est un terme que vous pouvez comprendre à la radio sans écrire. L'apesanteur et l'apesanteur, vous ne faites pas la différence. La pesanteur et l'apesanteur, vous faites pas la différence. Donc cette apostrophe, on l'a enlevée. Il faut dire apesanteur, et comme ça, vous pouvez l'exprimer sans avoir besoin de l'écrire.
Ah, d'accord, compris.
Donc, oui, parce que l'apesanteur, c'est le poids.
J'ai compris.
Et l'apesanteur, l'absence de poids. Mais
c'est pour faciliter la compréhension.
C'est un mot. Donc c'est impropre, l'apesanteur. Bon, il est beaucoup utilisé. Mais
est-ce que vous, Philippe Dronneau, vous avez eu la chance de le sentir cette apesanteur?
Oui, j'ai eu cette chance-là. C'était pas en Airbus, c'était en Caravelle. Maintenant, ce sont des Airbus, mais c'était en Caravelle avec d'ailleurs Jean-François Clairvoy, avec qui j'ai joué au ping-pong. Dans la Caravelle. C'est en fait le fait que un avion, si on peut le faire avec des petits avions d'ailleurs, mais beaucoup quelques secondes, mais avec l'Airbus actuellement 0G qui appartient à l'Agence spatiale européenne, au Centre national d'études spatiales, qui font des expériences scientifiques, on peut pendant 20 secondes lorsque l'avion prend une attitude vers le haut et puis ensuite prend une trajectoire de type balistique, c'est-à-dire qu'il est en roue libre, je dirais. Il est dans une trajectoire qui fait que, eh bien, il chute et que vous ne sentez plus votre poids. Donc pendant 20 secondes, tout flotte. Vous êtes absolument en apesanteur comme dans l'espace. C'est une qualité d'apesanteur tout à fait correcte, comme dans l'espace, sauf que ça dure 20 secondes. Puis au bout de 20 secondes, comme vous êtes bien penché vers la Terre, on reprend l'altitude normale de l'avion.
Et là, vous retombez d'un coup, c'est-à-dire que vous étiez Vous êtes en train de voler, vous tombez, quoi.
On dit 45-30, c'est l'inclinaison de l'avion, ils préviennent, et puis on sent bien qu'il va falloir se rattraper quelque part, et puis tout d'un coup, on reprend le plancher des vaches, oui.
Et donc, ça dure 20 secondes
20 secondes, puis on recommence. On recommence 20 fois.
Mais l'avion, il revient se poser ou non? Non, il reste en vol et il recommence.
Il est au-dessus de la mer, et puis il fait quand même une très belle distance vers le haut, hein. Il fait 5000 mètres vers le haut et vers le bas, donc c'est.
Vous l'avez fait combien de fois?
Moi, j'ai fait 28 fois, mais en général, c'est plutôt une vingtaine de fois. J'ai pas été malade, donc c'est super.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, Philippe Bourneau?
On flotte, c'est-à-dire qu'en fait, on est.
On sent plus son corps.
On sent plus son corps. En tout cas, on peut avec une main, un poignet, se balader partout dans l'avion. On peut aussi finalement faire des roulés-boulés sur soi-même. On peut. En fait, c'est une liberté absolument extraordinaire. Non, sans se faire mal au dos, il y a pas de souci.
Vous avez joué au ping-pong avec Jean-François Clavoy, mais pas en apesanteur quand même.
Si, justement, en apesanteur, quand vous jouez à sous 2G, c'est-à-dire sous pression, accélération, vous avez une trajectoire qui la balle va très haut, elle monte à 1 mètre du haut et vous essayez de jouer comme ça. Et quand on est en apesanteur, ben on joue absolument, la balle fait juste un aller-retour et on frappe dans
tout droit.
Oui, absolument, c'est possible.
C'est incroyable.
Qui a gagné?
On a un peu tous les deux perdu parce que c'était pas simple.
Vous en avez pas mal rêvé après.
C'est vrai que pendant plusieurs jours, dans mon lit, quand j'étais concentré, je pouvais revivre cette sensation de liberté un peu extraordinaire.
Parce que c'est bouleversant pour l'humain de sentir ça.
Non, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Je sais pas comment le qualifier. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde parce que c'est vraiment extraordinaire.
Combien ça coûte?
Alors, les Américains ont commencé à faire des vols comme ça, les Russes aussi à un moment donné, et maintenant en Europe on peut le faire avec RC Roger, d'ailleurs avec le Jean-François Clairvoy est président de Novespace, et c'est lui qui s'en occupe, et ils ont des vols à 5 000 euros, donc c'est un vol accessible, on est dans des milliers de personnes.
C'est cher, mais on est très très loin de ce qu'on décrivait tout à l'heure, évidemment, où il faut payer 35 millions d'euros pour aller sur la station spatiale internationale. Donc on peut s'offrir l'une des sensations majeures des astronautes pour 5 000 euros, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
Oui, et c'est peut-être une des sensations avec la vision de la Terre dont on parlait, mais c'est une sensation absolument extraordinaire qui est à vivre, que je souhaite à tout le monde.
Philippe Dourneau, parmi les civils richissimes et passionnés d'espace, il y a le milliardaire Richard Branson. Quel exploit il a réussi en 2004?
Alors lui, il a réussi à gagner le concours qui était un concours Ansari Prize. Il fallait réussir à mettre trois personnes à 100 km d'altitude, cela en moins de 15 jours, avec le même avion, en changeant peu de choses. Et il a réussi, c'est-à-dire qu'il a réussi avec Spaceship One, cet avion qui actuellement est exposé à Washington, il a réussi à faire en sorte le premier vol privé entre guillemets dans l'espace, c'est-à-dire au-dessus de 100 km, et c'est un bel exploit. Et il a voulu ensuite continuer cela pour des touristes spatiaux qui paieraient des vols. Et là, pour ça, il a fallu qu'il fasse un autre avion qui s'appelle Spaceship Two.
Mais il y a une liste d'attente très longue pour faire un vol avec Richard Branson. Enfin, ça s'appelle Virgin Galactic.
Il fait déjà des vols. Il y a déjà des vols.
Ah non, absolument pas. Ça fait 10 ans qu'il a des soucis, et il a choisi sans doute techniquement, il a choisi quelque chose de très difficile. Il a eu un accident en vol dernièrement avec un décès du pilote et un autre qui s'est sauté, qui a été blessé. Il doit tout revoir. Il n'y est pas.
Il y a 700 personnes, je crois, qui se sont 700, inscrits.
C'est
700 et quelques.
C'est 700 et quelques. Certains disent des milliers. Bon, en gros, c'est pas très clair. Ce qui est sûr, c'est qu'en fonction du niveau d'acompte que vous avez, vous êtes placé dans les 100 premiers, dans les 200 premiers, 300 premiers, etc. Actuellement, on sait qu'il y avait 500 à 600 personnes, peut-être 700.
On peut se faire rembourser son billet si on voit vraiment que ça marche pas et que Richard Branson, il est pas au point.
Et en fonction de son état médical, etc., il est bien, et tout est prévu, les contrats sont assez bien faits.
Ouais. Bon, on va continuer de vous raconter cette conquête spatiale, cette démocratisation, en tout cas de la conquête spatiale dont on rêve tous. Pour voir la Terre, tiens, vu de la stratosphère, il y a un autre moyen, le vol en ballon, un petit peu comme Félix Baumgartner, vous souvenez.
J'ai adoré, mais j'ai même suivi son saut sur Internet. Ouais. On a l'impression d'y être, c'est extraordinaire en termes de sensations.
Là, on ne sera pas obligé de sauter en parachute après. On va vous raconter ces projets un peu fous.
Vous écoutez RTL.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Sur Terre, vous pouvez faire du tourisme presque n'importe où. La vraie destination de rêve se trouve à une centaine de kilomètres au-dessus de vos têtes.
Jusqu'à 22h,
les visionnaires du tourisme spatial sont en train d'imaginer vos vacances de demain. Dépaysement assuré.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La conquête de l'espace, elle fait rêver les humains depuis toujours. Et notre invité, Philippe Dronneau, médiateur scientifique à la Cité de l'espace de Toulouse. Depuis deux semaines, en partenariat avec RTL, vous nous guidez dans cet univers qui est à la fois technique, scientifique et qui fait rêver. Faut le dire, ce soir, ce sont les touristes de l'espace qui nous passionnent. Des vols habités accessibles au plus grand nombre, ce sera possible dans combien d'années? 30, 40 ans?
Je pense que ça dépendra un peu de l'état du monde et de l'état de la planète. C'est-à-dire qu'il faut tout de même faire en sorte que les vols qui seront prévus de faire des milliers de vols ou des centaines de milliers de vols dans l'espace devront quand même gérer en même temps, faire la preuve qu'ils ne sont pas négatifs pour notre atmosphère ou pour d'autres questions sociétales.
Ça pollue beaucoup. Un vol spatial?
Un vol spatial, c'est-à-dire tant qu'ils sont quelques centaines, comme c'est le cas actuellement, ça va. Mais on ne sait pas. En tout cas, le tourisme, on a parlé du vol 0G, c'est un vol avion à peu près normal. On a parlé des ballons. Bon, c'est
on
pas.
On va en parler dans
le
détail.
Vous imaginez des autoroutes de l'espace,
mais,
c'est ça, avec des embouteillages.
Les vols en haute altitude, on ne sait pas très bien. Il y a eu des polémiques avec le Concorde, notamment, qui volait très haut. Ouais. Et là, on est dans la haute atmosphère, et on n'a pas une très bonne connaissance de la haute atmosphère, et des milliers de vols pourraient poser des problèmes. Donc, il faudra trouver peut-être les solutions pour que ce ne soit pas écologiquement anormal.
Oui, donc ce que vous nous dites, c'est que c'est plutôt le grand public, l'opinion qui pourrait freiner le développement des vols du tourisme spatial.
Ce qui est fantastique, nous on le voit tous les jours, c'est l'adhésion qu'il y a pour la recherche de la connaissance, pour les progrès, pour notre connaissance de notre environnement et pour les astronautes même qui vont dans l'espace parce qu'ils sont une élite mais qui a été choisie et qui est là pour la connaissance et pour faire des progrès techniques. Là, il s'agit d'un plaisir personnel. Tout le monde a le droit de chacun peut choisir ses plaisirs. Par contre, il faut que ce soit socialement acceptable.
Oui. Alors, vous êtes venu avec les brochures de Virgin Galactic, on en parlait tout à l'heure, et puis d'une autre société qui s'appelle Cosmica Spaceline. Donc, eux, ils font comme si c'était possible. Et ils demandent combien d'argent? Tiens, on parlait des 700 ou milliers de touristes spatiaux en liste d'attente. Ça coûterait combien?
Oui, c'est assez amusant. D'ailleurs, il y a une corrélation assez bonne entre le nombre de gens susceptibles d'être touchés et l'argent qu'on dépense. Là, on parle de on pourrait aller vers des milliers de personnes et on parle de 250 000 euros à peu près, 200 000, 250 000 euros, peut-être un peu moins.
Pour faire quoi exactement?
Pour aller en haute altitude et rejoindre cette frontière à partir de laquelle, vers 100 km, à partir de laquelle on a une vision de la planète, on commence à voir la courbure de la Terre. Mmh. C'est vrai qu'on a une vision qui est un peu celle de l'astronaute, même si l'astronaute, lui, est plutôt à 400 km. Mais on a cette vision. Donc, en fait, il s'agit de se retrouver.
Mais on n'est pas en orbite.
Ah, on n'est pas du tout en orbite, ouais, c'est 100 fois moins d'énergie et c'est 100 fois moins cher. Par contre, on peut voir la Terre, on peut avoir ce coup de pied aux fesses, on a, dont on parlait tout à l'heure,
l'adrénaline du décollage,
ouais. On peut avoir un peu d'impesanteur, là c'est 6 minutes, c'est 4, 5, 6 minutes, c'est pas énorme, c'est même un peu court, ça doit être très frustrant vu le prix.
Vous parliez de 20 secondes fois 20 pour vous.
Là on parle des vols de Branson et là on est sur un vol sur lequel il y a quelques minutes, mais complète, c'est-à-dire la minute, elle est, vous faites 5 minutes, disons, ou 4 minutes d'affilée. Alors d'accord. Que dans les vols 0G, c'est 20 secondes. mais vous pouvez en faire, vous pouvez les multiplier hein, en passant par une phase de ressources. Donc voilà, ce sont des vols qui sont extrêmement puissants. Vous montez très très vite à 100 km hein, en quelques minutes et puis vous redescendez. Il va falloir faire attention à la redescente parce que ça chauffe. On voit à peu près une vitesse, à un moment donné, on voit à peu près une vitesse de Mach 4, donc à 4000 km/h à peu près vers le haut. Hein, c'est un vol, pour l'instant, c'est extrêmement risqué. On pense d'ailleurs qu'il y aura des sociétés comme celui que le patron d'Amazon, Jeff Bezos, il a une société qui, avec New Shepard et Blue Origin, ce sont un système avec une fusée et une capsule. Et finalement, ce sera peut-être plus sûr et il va peut-être arriver avant. On ne sait pas très bien, mais ça a l'air
une concurrence
d'être sérieux. C'est sérieux. Le seul problème, c'est que ça coûte très cher, c'est peu sûr et on verra s'il y a un modèle économique.
Bon, Philippe Dronneau, je ne me suis pas encore décidé pour mes vacances. Alors, je jette un œil quand même sur les vols en ballon stratosphérique. Ça marche comment? Parce que ça me tentait bien, ça.
Ça, c'est simple. Hein, c'est comme l'atmosphère, c'est un peu comme un milieu fluide. Mm-hmm. Donc, si vous, dans votre baignoire, vous avez votre petite balle, vous avez une petite balle dans la baignoire et vous la lâchez, elle remonte à la surface. Eh bien, un ballon, c'est pareil. Un ballon à l'hélium, avec gonflé d'hélium, il va monter en haut de l'atmosphère dense, c'est-à-dire à peu près à 40 km. Donc, si on met une capsule, si on met un habitacle, eh bien, vous pouvez monter à 40 km, 30, 40 km. Et là, vous avez une vision qui est une belle vision de la Terre.
Alors c'est ce qu'avait fait Félix Baumgartner.
Absolument, lui il a sauté en parachute. Ça, c'est pas conseillé.
Oui. Pourquoi c'est dangereux?
c'est très dangereux parce qu'il a passé le mur du son. Il faut un scaphandre, tel un scaphandre spatial. Il a passé le mur du son. Il tournait en rond. Si vous avez vu le film,
sûr,
il tournait. Vous pouvez en mourir ou en tout cas vous pouvez tomber dans les pommes. Bon, c'est extrêmement sportif. Par contre, si vous êtes dans un habitacle, vous montez à 6 dans un habitacle, et si l'habitacle, à un moment donné, le ballon explose et donc vous êtes lâché. Et puis vous tombez dans le vide et vous avez un petit parachute, deux parachutes, et puis vous tombez finalement assez proprement sur Terre.
Ça, c'est envisageable pas... comme
ah oui, c'est envisageable, ouais. ça va certainement être fait. Simplement, ça restera très cher. Là, on parle de 70 000 euros, enfin c'est en dollars souvent, hein, mais c'est à peu près 70 000 euros. Et je pense que dans les années qui viennent, il y aura des vols comme ça. Ça restera une élite aussi.
Bon, on a compris qu'on n'est pas prêts les uns et les autres à s'envoler tous.
On va continuer de voyager avec vous.
En revanche, on peut aller à la Cité de l'Espace de Toulouse. Vous nous avez parlé du film en 3D. Il y a quoi d'autre? Par exemple, est-ce qu'on peut, j'en sais rien, visiter une station spatiale ou une capsule ou
Oui, on a tout ça. C'est-à-dire, le but, c'est de faire comprendre de que les gens soient plus proches de l'espace et de tous ces intérêts, justement, dont on parlait. Et donc, et notamment d'échantillonner un peu la mission spatiale. Et pour ça, on peut rentrer dans un Soyouz.
Grand, un Soyouz?
Ah non, c'est tout petit, justement. On s'installe dedans. Il y a quelquefois des queues un peu pour s'installer à bord. Il y a un scaphandre à côté. C'est très intéressant de se retrouver dans ce véhicule spatial, ce taxi de l'espace. Et puis il y a des sièges rotatifs pour sentir. Il y a des choses qui sont des expériences et puis il y a des choses qui sont des connaissances. Il y a l'ensemble de tout ça.
Ça donne très envie.
Merci beaucoup. Et tout ça pour 20 euros seulement l'entrée, c'est ça?
Et oui, des millions de gens, 20 euros, c'est pas cher.
Oui, on est toujours dans ce rapport.
Plus fort que Richard Branson.
On a commencé avec un astronaute pour 35 millions de dollars.
Et on arrive à 20 euros.
Des millions pour 20 euros. C'est logique. Merci beaucoup. Ce partenariat RTL Cité de l'Espace de Toulouse, il continue. La semaine prochaine, on parlera des exoplanètes. Alors, c'est quoi? C'est des planètes qui tournent autour de Soleil, un peu comme le nôtre.
Et oui, dans la galaxie, on a peut-être 1 milliard de planètes telles que la nôtre. Maintenant, on le sait ou on pense le savoir.
Vous écoutez RTL.